était belle et bien un peu puérile.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Les yeux ont des oreilles pour ce 51e épisode. En plus de nos habitués que sont Lydia et Nathanaël, nous avons l'insigne honneur d'accueillir aujourd'hui parmi nous Avril Dystopie. Nous vous proposons toutes les deux semaines une traversée de textes mis en voix et de créations sonores autour de grandes thématiques que vous pourrez découvrir sur le site de Transistor. Chose promise, chose due, nous voilà de retour avec moins de 2 mois d'absence. Au programme d'aujourd'hui, sorcières et sorciers. Après avoir suivi la conversion du docteur Faust à la magie dans le Faust de Goethe, nous nous pencherons plus en avant sur le sort réservé aux sorcières. Lydia prêtera ainsi sa voix à Abigail William durant les procès en sorcellerie de 1692 à Salem, dans The Crucible, d'Arthur Miller. Ainsi violemment réprimées des siècles durant afin d'asservir les femmes aux logiques patriarcales, les sorcières reviennent en force depuis quelques décennies via les mouvements féministes, d'où la lecture désormais incontournable de Sorcières de Mona Chollet, contribuant à réhabiliter la figure de la sorcière et dont je me ferai un plaisir de mettre en voix l'introduction. Enfin, nous laisserons le mot de la fin à notre invité spécial, Avril Dystopie, avec Le Sifflet de VR. Nous vous souhaitons une belle écoute et vous laissons tout à vos yeux et surtout vos oreilles.
Pas aux gens dans la boue, pauvres petits humains, seriez-vous plus serein, esprit saint ou porc saint? Moutatis, moutandis, ici je veux un groin, un jambon pour la cuisse et qu'il te pousse au rein. Curieux appendice, mutatis mutandis, maintenant je t'impose la couleur d'une rose, de la tête au coccyx, mutatis mutandis.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust.
Hab nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich arme Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heißer Magister, heißer Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre, herauf, herab und quer und krumm, meiner Schüler an der Nase herum. Und sehr, dass wir nichts wissen können. Das fiel mir schier das Herz verbrannt. Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was recht zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Drum hab ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis wird erkund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauch, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau aller Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten Kram.
Mais le temps a passé et j'ai jeté mes dopes. Mes poudres, mes potions, mes sortilèges. Il y a longtemps qu'Ulysse.
Arthur Miller, The Crucible. Entre autres
sacrilèges. Why? You taught me goodness. Therefore, you are good. It were a fire you walked me through. And all my ignorance was burned away. It were a fire, John. We lay in fire. And from that night, no woman dare call me wicked anymore. But I knew my answer. I used to weep for my sins when the wind lifted up my skirts and blushed for shame because some old Rebecca called me loose. And then you burned my ignorance away. As bare as some December tree, I saw them all, walking like saints to church, running to feed the sick and hypocrites in their hearts. And God gave me strength to call them liars. And God made men listen to me. And by God, I will scrub the world clean for the love of God. Oh, John, I will make you such a wife when the world is white again. You will be amazed to see me every day, a light of heaven in your house. Why are you called?
Je vais de port en port, voir si je trouve encore un homme dans chaque port. Constatant que personne dans ce monde en déglingue ne met plus de magie.
Mona Cholet,
au fond,
sorcière. Bien sûr, il y a eu celle du Blanche-Neige de Walt Disney, avec ses cheveux gris filasses sous sa capuche noire, son nez crochu orné d'une verrue, son rictus imbécile, découvrant une dent unique plantée dans sa mâchoire inférieure, ses sourcils épais au-dessus de ses yeux fous, qui accentuaient encore son expression maléfique. Mais la sorcière qui a le plus marqué mon enfance, ce n'est pas elle, c'est Floppy le Redoux. Floppy apparaît dans Le Château des Enfants Volés, un roman jeunesse de l'autrice suédoise Maria Grip, qui se déroule dans une contrée nordique imaginaire. Elle vit dans une maison perchée au sommet d'une colline, abritée sous un très vieux pommier dont la silhouette, visible de loin, se découpe sur le ciel. L'endroit est paisible et beau, mais les habitants du village voisin évitent de s'y aventurer, car autrefois s'y dressait une potence. La nuit, on peut apercevoir une faible lueur à la fenêtre, tandis que la vieille femme tisse tout en conversant avec son corbeau, Solon, borgne depuis qu'il a perdu un œil en se penchant sur le puits de la sagesse. Plus encore que par les pouvoirs magiques de la sorcière, j'étais impressionné par l'aura qui émanait d'elle, faite de calme profond, de mystère, de clairvoyance. La façon dont son apparence était décrite me fascinait. Elle sortait toujours enveloppée dans une ample cape bleue foncée, dont le large col claquant au vent faisait flop-flop autour de sa tête, d'où le surnom de Floppy. Elle était aussi coiffée d'un drôle de chapeau. Ses bords souples étaient parsemés de fleurs retombant d'une haute calotte violette garnie de papillons. Ceux qui croisaient son chemin étaient frappés par l'éclat de ses yeux bleus, qui changeaient continuellement et exerçaient un véritable pouvoir sur les gens. C'est peut-être bien l'image de Floppy le Redoux qui m'a préparé à apprécier plus tard, quand je me suis intéressé à la mode, les créations imposantes d'un Yoji Yamamoto, ses vêtements amples, ses chapeaux immenses, sortes de refuges de tissu aux antipodes du modèle esthétique dominant selon lesquels les filles doivent dévoiler le plus de peau et de forme possible. Resté dans ma mémoire comme un talisman, une ombre bienveillante, Floppy m'avait laissé le souvenir de ce que pouvait être une femme d'envergure. J'aimais aussi la vie retirée qu'elle menait, et son rapport à la communauté, à la fois distant et impliqué. La colline où s'élève sa maison, écrit Maria Grippe, semble protéger le village comme s'il était blotti sous son aile. La sorcière tisse des tapis extraordinaires. Assise devant son métier, elle méditait tout en travaillant. Ses réflexions concernaient les habitants du village et leur vie, tant et si bien qu'un beau matin, elle découvrit que, sans s'en douter, elle savait d'avance ce qui leur arrivait. Penchée sur son ouvrage, elle lisait leur avenir dans le dessin qui, tout naturellement, se créait sous ses doigts. Sa présence dans les rues, si rare et fugitive soit-elle, est un signe d'espoir pour ceux qui la voient passer. Elle doit la seconde partie de son surnom, personne ne connaît son véritable nom, au fait qu'elle ne se montre jamais durant l'hiver, et que sa réapparition annonce de façon certaine l'arrivée imminente du printemps, même si ce jour-là, le thermomètre marque encore 30 degrés au-dessous du zéro. Même les sorcières inquiétantes, celles de Hansel et Gretel, ou celles de la rue Mouffetard ou la Baba Yaga des contes russes, tapis dans son isba juché sur des pattes de poulet, m'ont toujours inspiré plus d'excitation que de répulsion. Elles fouettaient l'imagination, procuraient des frissons de frayeur délicieuses, donnaient le sens de l'aventure, ouvraient sur un autre monde. Pendant la récréation à l'école primaire, mes camarades et moi traquions celles qui avaient élu domicile derrière les buissons de la cour, obligés de nous en remettre à nous-mêmes face au flegme incompréhensible du corps enseignant. La menace flirtait avec la promesse. On sentait soudain que tout était possible, et peut-être aussi que la joliesse inoffensive, la gentillesse gazouillante n'était pas le seul destin féminin envisageable. Sans ce vertige, l'enfance aurait manqué de saveur. Mais avec Floppy le Redoux, la sorcière est définitivement devenue pour moi une figure positive. Elle était celle qui avait le dernier mot, qui faisait mordre la poussière au personnage malfaisant. Elle offrait la jouissance de la revanche sur un adversaire qui vous avait sous-estimé. Un peu comme Fantomette, mais par la force de son esprit, plutôt que par ses talents de gymnaste en juste corps, ce qui m'arrangeait, je détestais le sport. À travers elle, m'est venue l'idée qu'être une femme pouvait signifier un pouvoir supplémentaire, alors que jusque-là, une impression diffuse me suggérait que c'était plutôt le contraire. Depuis, ou que je le rencontre, le mot « sorcière » aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être mienne. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J'aime aussi l'idée d'un art que l'on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l'on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie.
Quand ce n'est qu'en gorée que je les transformais, les voici désormais. Enivrés par le fric, le pouvoir les combine, changez en charognards.
VR, le sifflet.
Et voilà que le juge lui demande si elle regrette son acte. Ce grand type brun, droit dans sa robe de sorcière, impassible et vraiment snob, avec l'air de ceux qui n'ont jamais fait un pas de travers. Il ne lui fait pas peur. Avant, sans doute aurait-elle pris une petite voix timide pour lui répondre. Elle aurait balbutié la réponse qu'il lui aurait demandé de répéter. Les mots se seraient emmêlés dans sa bouche, peinant à sortir. Cette question ne fait que couronner le long processus débuté en fin de matinée, s'inscrivant dans la continuité logique des interrogations qui l'ont précédée. Car le juge, ce maître de la tour, sait bien ce qu'elle pense de tout cela. Seulement, il veut la soumettre. Qu'elle accepte sous son autorité de remiser sa volonté au placard. Qu'elle ferme sa grande gueule de salope et avoue, admette qu'elle a fait une connerie. Il ne lui demande pas d'être sincère, mais de choisir entre l'écrasement brutal réservé à l'insoumission d'un côté, et de l'autre, le silence, l'autocensure, pour pouvoir continuer à vivre comme les autres. Ce gars n'a rien à foutre de la vérité, ça fait belle lurette qu'elle l'a pigé. Même si au début du procès il lui a fait jurer, en levant la main droite, de dire toute la vérité, rien que la vérité, elle a la sensation de se trouver sur une scène de théâtre, héroïne tragique. Elle essaye de se souvenir comment ça se termine, d'habitude. Qu'avait dit le prof de français en première il y a 30 ans ? Elle n'a jamais aimé le théâtre. Ici, maintenant, elle voudrait le saigner, ce porc qui la regarde d'en haut depuis sa tribune, entouré de trois autres juges silencieux avec son sourire narquois qu'il ne prend même plus la peine de dissimuler, et signifie muettement « Je me délecte d'avance, je ne vais faire qu'une bouchée de toi ». Sûr que ça ferait une belle une dans les journaux. Elle est certaine que ça le fait bander de l'avoir hésité ainsi parce qu'elle se sait piégée, de sentir sa prise s'affermir comme une main serrant la gorge ou la nuque d'une victime. Sans doute le fait de savoir qu'elle se débat intérieurement, qu'elle se sent perdre pied, que la tête lui tourne comme à un noyé, sans doute cela l'excite-t-il. Comme les autres. Elle voudrait lui lacérer le visage à cette raclure, mais elle répond poliment, pour gagner du temps. Elle se montre prudente et il le sait. « Comment cela, monsieur le président ? Sur quel plan ?» Elle a énoncé les mots d'une voix claire, celle d'une femme qui n'a plus peur. Son petit fantasme de domination mal placé, le bonhomme, il se peut se le carrer où elle pense. Elle joue la niaiserie suprême. Il s'agace, raffermit son emprise, balayant sa question comme d'un revers de la main, comme une impertinence ou une mouche qui bourdonne trop près de l'oreille, tout juste irritante mais évidemment négligeable, lui faisant bien comprendre que toute tentative de résister est vaine, ne fera qu'accroître la force de l'écrasement, jusqu'à ce qu'elle casse, comme une petite branche pas assez souple. Flexibilité. Ça colle à l'air du temps. C'est le nouveau principe de l'époque. Ne cherchez pas à nous embrouiller et à nous faire perdre du temps. Je vous demande si, oui ou non, vous regrettez d'avoir agressé Monsieur Steinelbach jeudi dernier. Une question d'apparence toute morale, qui semble bien éloignée de ce à quoi elle s'attendait en entrant dans un tribunal. Ça aussi, elle a eu le temps de le comprendre depuis le début du procès. Tactique habituelle du pouvoir, qu'elle avait déjà remarquée dans les journaux, les interviews, les sondages. Le pouvoir utilise des questions fermées. On fait croire qu'on vous laisse le choix, que vous êtes libre, mais il n'y a que deux entrées possibles dans ce système. Donnez la bonne réponse, et on vous applaudira. On vous accordera une petite gloriole destinée à flatter votre ego, vous brosser dans le sens du poil pour que vous continuiez à filer droit, ou au moins on vous laissera à peu près tranquille. Donnez la mauvaise réponse, et vous deviendrez à coup sûr un paria, une nuisance pour la société. Il n'y a que deux réponses à cette question, madame, pardon, mademoiselle. Il appuie bien sur chaque syllabe, sa façon de lui faire comprendre à quel point il trouve ridicule d'être encore une demoiselle à 40 ans passés. Oui ou non, regrettez-vous cet acte? Il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas regretter et ne pas regretter à la fois. Comme si c'était le genre de question à laquelle on pouvait répondre en 3 secondes. Comme s'il ne le savait pas déjà. Elle lève les yeux, deux billes noires où il est parfois difficile de distinguer l'iris de la pupille, les plantes dans ceux du juge. Elle voudrait que ce soit des couteaux acérés, lui faire mal à lui aussi, pour lui rendre l'appareil. Question de réciprocité dans les rapports, règle élémentaire de la politesse, très chère. Depuis le début, il sait qu'il l'a déjà condamnée. Il n'écoute même pas ce qu'elle a à dire pour sa défense, se contente d'entendre, balayant chaque argument d'un « C'est très beau d'avoir des idées, mademoiselle F, mais ce sont des faits que l'on juge ici. Vous êtes dans un tribunal, pas sur un forum. Ou encore, ces éléments ne font pas partie du dossier que nous instruisons. C'est de l'agression de jeudi dont nous traitons aujourd'hui. » Il ne peut pas la foutre en tôle, pas pour ça. Le président de séance, après avoir expliqué de quoi traitait le dossier, a commencé par dresser le portrait social de Lula. Comme si quelques éléments de sa vie privée, combinés à une catégorisation objective, c'est-à-dire suivant les normes du moment, suffisaient déjà à l'incriminer. Avant d'ouvrir la bouche, il l'a regardé de haut en bas, l'air de dire « Tu aurais pu faire un effort vestimentaire, c'est pas sérieux, de se pointer accoutré de la sorte à son propre procès, habillé comme un sac. » Son avocat lui avait aussi demandé de se présenter dans une tenue appropriée. Appropriée, dans leur jargon, ça ne veut pas dire propre, ça signifie plutôt sexy mais pas trop. Faudrait pas que ça fasse vulgaire. Les jurés doivent pouvoir se rincer l'œil sans en avoir l'air, rester discret et paraître sérieux quand ils te reluquent. Mais il faut mettre tous les avantages de son côté, surtout quand on est, comme Lula, loin d'être un tas. Le président a eu une moue discrètement dégoûtée en commençant « Alors, mademoiselle F, ah, mademoiselle F, vous êtes une femme de 47 ans, célibataire. » Célibataire, c'est la réponse qu'elle a préféré donner quand ils ont cherché à en savoir plus sur sa situation familiale et sentimentale, pour ne pas avoir à expliquer qu'elle n'est pas mariée, ni paxée, ni ne vit en concubinage avec aucun homme ni aucune femme. Enfin, clarifions les choses, ça ne signifie pas qu'elle est mal baisée, insulte récurrente dans la bouche des agents de police qui l'ont arrêtée, puis au poste. Elle est à peu près certaine que le juge pense la même chose qu'eux à ce moment précis. S'il savait. Elle éprouve une soudaine envie de rire. Ce n'est pas le moment. Et depuis son arrestation jeudi, c'est vrai que ça commence à lui manquer. Jean et Élise, surtout. Elle n'a même pas mentionné leur nom. À Clara, Élise, Jean. Encore moins celui de Freddy. Surtout, vu leurs standards moraux hypocrites à deux balles. Il l'aurait directement rangé dans la catégorie pute ou salope. Ça lui rappelle une des plaisanteries favorites de Steinelbach, quand il se marre avec ses potes après avoir tringlé une employée de bar ou un bon petit cul. Il est toujours hilar quand il balance « Je vais te dire, il y a trois sortes de femmes. Tu sais lesquelles ? Les putes, les salopes et les emmerdeuses. Les putes couchent avec tout le monde, les salopes couchent avec tout le monde sauf toi, et les emmerdeuses ne couchent qu'avec toi. » Comme beaucoup de ses blagues, il a pompé celle-ci sur Internet. Parfois, lui et ses copains s'amusent à établir un classement. Ils rangent dans les trois cases les filles et femmes qu'ils connaissent, les clientes du jour, les étudiantes. Lula fait bien ce qu'elle veut de son corps, de son cul, ça ne regarde personne, encore moins un juge. Elle aurait pu prendre le parti de défendre cette liberté, de revendiquer son engagement dans ce qu'elle appelle l'amour libre, qu'elle oppose aux mensonges hypocrites et toujours blessants de leur soi-disant fidélité à eux. Mais elle a bien conscience qu'un commissariat et un tribunal ne sont pas des lieux favorables pour démarrer ce genre de débat. Ça n'aurait servi qu'à les conforter dans l'idée qu'elle est une dépravée, une sans morale, de celles qui ne peuvent pas s'adapter à leur société et représentent donc une nuisance, ou pire, un danger. Après tout, pour eux, elle a agressé un homme qui n'avait jamais levé la main sur elle, ni formulé aucune injure personnelle à son égard. Cela suffit à leurs yeux pour considérer Steinelbach comme un innocent, et même une victime dans cette affaire. Bande 2.
Mutatis mutandis, ici je veux des dents, que ton poil se hérisse, qu'il coule dans ton sang, la fureur et le vice. Mutatis mutandis, que brûle dans ton cœur la haine et l'avarice, et prends du prédateur la sinistre police. Sois aveugle et sois sourd, et mène au sacrifice la pitié.
Voilà, c'était donc le 51e épisode de Les yeux ont des oreilles, en compagnie de Lydia, Avril Dystopie et Nathanaël. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur nos ondes et vous souhaitons une belle semaine. Nous profitons de cette fin d'épisode pour rendre un hommage à la très regrettée Anne Sylvestre qui nous a quittés en novembre dernier et qui avait contribué à réaffirmer la force et la nécessité des sorcières en retraçant l'histoire de l'asservissement des femmes à la domination masculine dans l'une de ses plus célèbres chansons, Une sorcière comme les autres, en 1975. Nous nous retrouvons dans 2 semaines, même endroit, même heure, et n'oubliez pas que vos yeux restent à l'écoute, et surtout, vos oreilles.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. n'est que moi. C'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait. Celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot. Fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue. Celle qui n'est jamais venue. Celle qui est venue trop tard. Fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre. Une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. M'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez, vous m'avez aimé putain, et couverte de satin, vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue, quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts. Celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre. Une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre. une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux pas.